Alors voilà ça.
Prenons le cas du logement.
Il y a des tas de gens qui ont des papiers, ou qui sont français.
Un français a déposé son dossier depuis déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Qui font la liste d'attente dans les HLM.
Eh bien, il a une femme et 2 enfants, et il demande un F3.
Ailleurs, il travaille dur, il respecte les règles, les procédures.
Arrive une famille de Kurdes, mais eux, ils ont 5 enfants.
L'ensemble de la République française doit considérer que les gens qui attendent, qui ont été assez sous, entre guillemets, pour respecter la loi, doivent passer derrière.
Par le seul jeu de l'attribution égalitaire des logements, ils ont priorité. C'est eux qui auront le logement avant celui qui attend depuis déjà des années.
Et d'obtenir l'appartement que celui-là, qui est anonyme, qui travaille, qui ne demande rien à personne, attend depuis 2 ans parfois, et on lui passe devant.
Alors, est-ce que c'est la question qu'on s'est posée?
Eh bien, moi, c'est pas ma conception de la République.
Eh oui, on se demande qui ça sert. Est-ce que ça sert plus Le Pen ou Sarkozy? J'ai pas de réponse. Monsieur Le Pen, c'était le franc-parler sur France Inter le 18 septembre, le soir. Monsieur Sarkozy, c'était dans l'émission de France 2 Contre-enquête le 18 septembre, le soir. Voilà. Allez, bravo et à bientôt.
Attention, attention. Revirement gauchiste sur France Inter, dans une émission sur la crise du logement universitaire. France Inter, je ne citerai pas ses présentateurs, ses journalistes, n'a pas cru bon d'inviter M. Bouygues, ou un ami à lui de TF1. Alors, je m'inquiète très fort de ce revirement gauchiste. Voilà, bonjour à tous les AMG, et très bonne continuation. À bientôt. C'était Sylvain, de Poitiers.
Salut à tous, je suis un jeune papa qui voulait témoigner d'une réflexion de Jeanne, 4 ans, qui, en écoutant France Inter, en fait, a eu cette réflexion d'un air agacé. Encore Nicolas Sarkozy, ça, si c'est pas de la pédophilie mentale, ça y ressemble quand même. Voilà, Gisela Angers, bisous à tous.
C'est extraordinaire d'être marseillaise et d'écouter une émission comme ça, vue de Paris, par un bobo démagogue et populiste. C'est pas du tout ce que... Venez donc y vivre un petit peu, vous allez voir, c'est une ville merveilleuse, certes, mais personne se mélange à Marseille, il n'y a pas de brassage, il n'y a pas de mixité, tous ces mots magiques que vous employez à Paris. Il n'y a pas ça, personne n'a jamais voulu ça. La rue de la République, c'était un endroit où quelqu'un de ma famille a habité, c'était plein de rats. Vous avez trouvé le gogo qui vous a raconté son histoire. Il fallait avoir plus large. C'est pas si simple. C'est peut-être maintenant, effectivement, qu'il va y avoir peut-être un brassage autour de la rue de la République. Bon, c'est un peu cher. Hein. Ils font fort pour les prix. Mais c'est pas pour ça. Ça chasse non seulement les Arabes et toutes les populations que vous voulez. Il y en avait d'ailleurs pas beaucoup. Il n'y a pas de mélange. Il faudrait que vous appreniez ça une fois pour toutes à Paris. Il n'y a pas de mélange ici. C'est pas le mode de vie. Personne ne veut ça. On le regrette ou on le regrette pas. C'est comme ça.
Oui, bonjour, je viens d'écouter l'émission. Merci d'avoir dénoncé cette sordide réalité marseillaise qui va contribuer à une aseptisation de la ville phocéenne par une politique conduite par le cynisme et le libéralisme ambiant. Merci encore d'avoir dénoncé ce hold-up scandaleux destiné à bouter hors des limites de la ville toute la classe populaire et cosmopolitaine qui a fait l'histoire de Marseille. J'invite chaque Marseillais à entrer en résistance. Bientôt, certaines échéances électorales peuvent nous permettre d'arrêter encore tout ce processus de démolition citadine. Et 2008 sera notre dernière chance de sauver notre patrimoine culturel et social. Je n'ai pas l'accent, car je fais partie de ces immigrants qui sont tombés amoureux de cette ville et qui souhaitent conserver la seule vraie mixité, celle qui a fait toute son âme et sa beauté. Voilà, Gilles de Marseille. Merci.
Bonjour, je voudrais juste citer Monsieur Michel Bellamy de Rouen, qui écrit dans le courrier des lecteurs de Télérama. À la suite du passage de 17h à 15h de là-bas, si j'y suis, je propose par équité de déplacer la chronique de Jean-Marc Sylvestre de 7h25 à 5h25. Pour ma part, je n'ai jamais été aussi assidu que depuis que je vis en Louisiane, où l'émission passe à midi. Comme beaucoup, Internet m'a permis de m'affranchir des horaires et des distances. Continuez à être modeste et géniaux. Francis.
Salut Daniel, je voudrais te lire un extrait.
extrait d'un article d'Aminata Traoré, essayiste et ancienne ministre de la Culture et du Tourisme au Mali. Je lis. Les œuvres d'art qui sont aujourd'hui à l'honneur au musée du Quai Branly appartiennent d'abord et avant tout aux peuples déshérités du Mali, du Bénin, de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo. Elles constituent une part substantielle du patrimoine culturel et artistique de ces 100 visas dont certains sont morts par balle à Ceuta et Melilla, et des sans-papiers qui sont quotidiennement traqués au cœur de l'Europe et, quand ils sont arrêtés, rendus menottes au point à leur pays d'origine. J'ai donc une suggestion à faire. Si chaque Africain qui est expulsé passait d'abord par le Quai Branly, le fameux musée du Quai Branly, et ramenait quelque chose qui lui appartient après tout. Qu'en pensez-vous ? Yolande Duvar. Merci, au revoir.
Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait ce matin, figurez-vous. C'est extraordinaire ce message de cette auditrice. Ce matin, on a passé la matinée au musée du Quai Branly avec Aminata Traoré, effectivement, cette ex-ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, essayiste, etc., qui était avec nous ce matin au musée Branly, au musée du Quai Branly, avec deux jeunes Africains qui sont à Cachan, qui sont au gymnase de Cachan, qui attendent l'expulsion définitive, qui attendent que les CRS reviennent cogner les gosses, les femmes. Et en attendant, ben, ils sont venus avec nous visiter le musée du Quai Branly en compagnie d'Aminata Traoré. C'est quelque chose qu'on vous racontera dans les jours prochains. Enfin, un reportage là-dessus, mais c'était particulièrement violent de voir ce musée plein d'objets sans sujet. C'est-à-dire que le musée du Quai Branly, c'est des objets, des beaux objets, très beaux objets. C'est des bibelots, mais il n'y a pas du tout de sujet. Des objets sans sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui les a faits, on ne sait pas à qui ils appartiennent, quel contexte, quelle histoire, quelle mémoire, quel rite, quel pouvoir ils peuvent représenter, constituer. Non, il s'agit de beaux objets tronqués, coupés, qui sont autant de trophées arrachés à notre passé dominateur et aussi à notre présent dominateur. C'est extraordinaire ce matin de voir nos deux Africains, l'un malien et l'autre de la Côte d'Ivoire, expliquer aux visiteurs du musée du Quai Branly ce que sont ces objets, le contexte, à quoi ils servent, etc. Ce que les visiteurs ne risquent absolument pas de savoir. Voilà, donc merci à cette auditrice pour ce message. Aujourd'hui, on continue notre balade à Marseille, enfin, dans ce Marseille qui disparaît. Cette anomalie qu'était Marseille, en ceci que le peuple habitait le centre de la ville. C'est une des dernières villes en France, probablement, qui avait un cœur populaire. C'est bientôt fini, comme disait cet auditeur, il y a cette voie d'aseptisation qu'on a connue à Paris, qu'on a connue notamment dans le quartier des Halles, par exemple. On a vu disparaître le peuple, la vie, les enfants, les personnes âgées aussi, pour un quartier entièrement aseptisé, chic, joli, bronzé et entièrement bobo. C'est ce qui va arriver aussi à Marseille, dans cette planète bien particulière dans laquelle on va se balader avec toujours avec François Ruffin, avec l'ami François Ruffin, mais on va voir que cette gentrification de Marseille ne date pas d'hier, à la lumière d'un travail considérable d'un historien, Alessis Del Umbria. C'est notre balade du jour dans la basse, j'y suis jusqu'à 18h.
À Marseille, les travaux de démolition du quartier du Vieux-Port sont activement poussés et déjà de nombreux immeubles ont été jetés à bas.
Il y a peu de villes en Europe occidentale qui ont subi un tel mépris, un tel rejet de la part de leurs élites.
Oui, je me dis qu'on a fait évacuer une deuxième fois.
D'un côté, c'était les Allemands, maintenant, c'est les Américains.
Et ben voilà.
C'est-à-dire que
ils sont, ceux qui font ça, dans la logique que quand on fait de la spéculation immobilière, d'avoir des Arabes ou des Noirs ou des pauvres à côté de l'immeuble qu'on achète, ça fait tâche.
Le quartier où il y avait des pauvres, c'est un quartier de luxe et des pauvres de dingue, ils n'ont plus rien à voir. Voilà.
Ils vont les virer dans la ville, dégager, vous gâchez le, comme l'a dit Patrick, vous virez, on vous met derrière, quartier Nord, quartier Paris, voilà.
Cet îlot inextricable de ruelles, de cul-de-sac, de cours, repère de toute une pègre internationale, l'îlot insalubre aussi, où la mortalité atteignait un chiffre effrayant, ne pourra plus, à l'avenir, servir de cadre qu'à l'imagination fertile des romanciers.
Ils vous ont viré après 12 ans à l'intérieur et ils vous ont rien proposé à la place.
Rien.
Daniel Mermet avec François Ruffin. Ah ben si j'y suis, à Marseille, Marseille, fini l'anomalie.
Flight number 2, arriving from New York.
On est dans un appartement où, au niveau de la chambre des parents, il y a une terrasse qui est sur le toit de l'immeuble. Donc, voilà, et ça c'est. À Marseille, c'est magique parce
bien
que
sûr, y a le soleil.
D'avoir une terrasse comme ça qui fait plus de 30 mètres carrés, au moins 9 mois par an, vous pouvez prendre les repas dehors. Vous voyez, là, il y a largement la place de faire un dîner à 18. Hein. La table tiendrait sans problème.
Et alors, quel est le prix d'un duplex comme celui-ci?
Alors, un duplex comme celui-ci fait 110 mètres carrés. 110 mètres carrés, ça fait 400 000 euros. Voilà, vous voyez, ce n'est pas des prix parisiens.
De toute façon, je vais pas acheter.
Non.
J'ai pas les 400 000 euros pour l'instant.
Vous savez que là où il y a une formidable solvabilisation, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des prêts sur 35 ans.
Enfin, je demande une augmentation à mon patron.
Et le musée, le multiplex, l'hôtel, les jardins de la cité de la Méditerranée, un centre commercial très important sur la place de la Joliette, qui s'appelle les Terrasses du Port. La confiance est là. La confiance des Marseillais dans leur ville, mais aussi la confiance des investisseurs extérieurs pour participer à cette renaissance. À ce propos, d'ailleurs, dans cet investissement, nous sommes accompagnés par de grands établissements qui sont les Caisses d'Épargne et la Société Générale. Voilà. Donc, sont les trois partenaires aux côtés du fonds Lone Star de la renaissance de la rue de la République.
Et est-ce que vous pensez que ça va permettre d'amener des cadres dans le centre-ville de Marseille et de un peu changer les populations?
Eh bien, écoutez, nos 65 premiers réservataires sont des cadres et des professions libérales, effectivement.
Des cadres, mais ils écoutent France Inter, les cadres. Vous savez qu'on est premier sur les cadres, nous. Ah oui, France Inter, première radio sur les cadres. Donc, voilà, ce sera la radio de ce nouveau quartier de Marseille, probablement. Voilà, vous avez compris. Hein, on a vécu ça un peu partout, ailleurs, en France, dans les grandes villes, au cours de ces dernières décennies. Là, comment le centre d'une ville peut s'embourgeoiser, perdre complètement son peuple, c'est-à-dire sa vie, et ça fait ces villes vides que nous traversons maintenant comme des décors, des villes décors. Et ça va être le cas de Marseille, même si bien sûr la promesse était de réhabiliter l'habitat tout en préservant la mixité sociale. On va voir qu'on vient d'en avoir là quand même un petit signe à travers l'expression de ce promoteur. Cette mixité sociale sera toute relative, sauf si on considère qu'il y a une mixité sociale entre le cadre supérieur dans son grand appartement et la comorienne qui vient faire le ménage. Dans cette limite-là, oui, il y a une certaine mixité sociale. Voilà, c'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, Marseille, la fin de l'anomalie.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle. Enfin, mais je ne sais pas où la chercher, la chercher. Il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, la trouver. Je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues, j'entends pas sa chanson. Enfin, mise et marcilla, montez ses escondidas. Enfin, mise et marcilla, Bessaitis is perdida. Remontant Canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier, ouais, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades. Rien pour s'amuser. Enfin, mise et marcilla, montez siège escondida. Enfin, mise et marcilla, Bessa qui s'est perdida.
Ça a été ça, Marseille. Hein, l'opérette marseillaise, toute une culture propre à cette ville à travers les chansons, à travers tout un état d'esprit qui se voulait évidemment léger, joyeux, gai. C'était Marseille. Et Marseille avec une différence. Il y a une différence entre Marseille et le reste du pays, le reste de la France. Comme si la centralisation française, le jacobinisme n'avait pas tout à fait réussi à intégrer cette planète Marseille entièrement tournée vers la Méditerranée. Vous avez remarqué que Marseille regarde la Méditerranée, ne regarde pas beaucoup vers le nord, hein, vers Paris. Ah, ah, c'est très très loin. Marseille qui... faut rappeler que dans la Marseillaise, c'est Marseille, quand même le mot important de l'hymne national. Alors, on va voir aussi comment l'embourgeoisement de la ville, la gentrification de la ville, d'une ville comme Marseille, c'est pas la première fois que ça se produit, mais est-ce que ça marche toujours d'abord? Les gars qui sont en train de se frotter les mains en faisant des comptes sur ce coup de ce hold-up, comme disait cet auditeur, sur le centre de Marseille, vont-ils vraiment réussir? Pas si sûr. Voilà ce que nous dit en tout cas Alessi Dell'Umbria, qui est un historien et qui publie ces jours aussi chez Agone, un éditeur marseillais, un gros bouquin absolument formidable qui s'appelle « L'histoire universelle de Marseille, mise en perspective ».
Bon, alors là au restaurant Manine Pasta à Marseille, mm-hmm. Alessi est en train de déguster un plat de pâtes pour le dîner.
Il y a peu de villes en Europe occidentale qui ont subi un tel mépris, un tel rejet de la part de leurs élites. D'abord parce que c'est une ville maritime, une ville de pauvres, et ensuite aussi parce que c'est une ville qui culturellement ne cadrait pas dans la constitution de l'État-nation français. Donc les élites en avaient honte. Et puis c'est une ville aussi où les confiscations ont été très violentes. Hein.
Dans notre bouquin, la collection de citations, on est remonté jusqu'à, par exemple, Louis XIV avec la fameuse phrase écrite en latin sur le Fort Saint-Nicolas qui dit que ces forts sont construits pour protéger le royaume d'une passion immodérée de Marseille pour la liberté. Ce qui explique que les canons de des forts étaient dirigés sur la ville principalement et pas sur la rade. Hein? Donc ça remonte à loin.
Donc il y a une stratégie continue sur deux siècles qui commence en 1860, on va dire, avec le percement de la rue de la République, à l'époque impériale, pour désintégrer l'hégémonie ouvrière dans Marseille. Et ce qui est tragique et amusant à la fois, c'est que, à travers différentes étapes successives, la rue de la République, la destruction de derrière la Bourse dans les années 1920, la destruction du Vieux-Port en 1933 par les Allemands, mais les Allemands agissant quand même à la requête des autorités françaises. Enfin, bref, toutes ces destructions n'ont pas réussi à éradiquer complètement la plèbe du centre-ville, et en même temps, elles n'ont pas non plus réussi à fonder une nouvelle centralité, une centralité bourgeoise. Ce qui fait que Marseille est un peu dans une espèce de situation à la fois au point de vue urbanistique, social et culturel, un peu bizarre. Hein ? On peut dire ça comme ça. Ouais.
En 1860, quelle est la situation pour qu'il y ait la décision de creuser cette rue impériale qui deviendra rue de la République ?
Ça vient dans la conséquence de l'haussmannisation de Paris. Hein. Et dans la mesure où à l'époque, Marseille était en plein essor. Napoléon III a couvert le projet, les financements sont arrivés. Tu vois quand même que le Second Empire a été caractérisé par l'alliance du capital concentré et de l'État centraliste.
Tu oublies de dire aussi, c'est un plein essor colonial aussi.
1860, les colonies, ça commence à peine. Il y a l'Algérie, ouais. C'était un truc extraordinaire pour l'époque. Ils ont percé carrément dans les collines. Au départ, le projet prévoyait l'arasement complet des trois collines, la colline de Saint-Laurent, la colline des Moulins et la colline des Carmes, et la déconstruction de la totalité du centre historique de Marseille pour être reconstruit sur un schéma orthogonal.
Ouais, c'était qu'un début.
Mais bon, ça a excédé les capacités de réalisation de l'époque.
Et qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est dans tous ces quartiers-là?
C'est un tissu urbain qui date de l'Antiquité. Hein.
C'est toute la vieille ville, c'est-à-dire un labyrinthe de petites ruelles, escaliers, dénivelés.
C'est une réussite, l'haussmannisation de Marseille?
Non, au 19e. Dans cette histoire, c'est qu'ils se sont ramassés la gueule complètement. À savoir que les bourgeois marseillais, eux, avaient déjà pris leur quartier au sud, situation qui est toujours en place, vers la rue Paradis, vers le cours Pierre-Puget, et les immeubles casernes de la rue de la République, c'était pas trop leur truc, surtout que c'était au voisinage immédiat des quartiers du Panier, des Carmes, de la Joliette, où c'était prolétaire à 100%. Pendant longtemps, c'est resté vide, et quand les pères ont dû commencer à rembourser les dettes, tout leur dispositif s'est écroulé comme un château de cartes. Il a fallu attendre très longtemps avant que tous ces immeubles soient occupés par une clientèle qui était beaucoup plus, on va dire, petite bourgeoise, mais pas vraiment bourgeoise, quoi. Quelque part, il y a une justice immanente. Les frères Perret n'ont pas gagné un rond dans cette affaire. Ils ont mangé la grenouille.
Alors, mangeront-ils la grenouille, nos investisseurs d'aujourd'hui? Franchement, on peut le souhaiter, mais on aurait mieux aimé que ça passe pas par ce nettoyage urbain. Je vais pas dire nettoyage ethnique, quoique, c'en est pas très loin. Tout ce quartier de Marseille va devenir ce qu'on connaît ailleurs, c'est-à-dire l'image fun de la ville, les habitants, les travailleurs, le populo, tout ça a disparu et le centre devient une espèce de grand mall, de grande zone commerciale à ciel ouvert, qui est un lieu de divertissement, de détente pour les classes moyennes, avec les restaurants, les bars, les terrasses, les endroits, voilà, comme ça, qu'on connaît bien partout dans nos villes. Mais il n'y a plus aucune aspérité, il n'y a plus aucun mystère, il n'y a plus, qu'à s'asseoir et consommer. Mais pour ça, il faut quand même nettoyer, hein. Il faut faire le nettoyage. Alors, c'est des stratégies qu'on a vues à l'œuvre à Paris. Les locataires, les vieilles personnes, tous ceux qui s'agrippent, il faut s'en débarrasser. Alors pour ça, il y a des techniques plus ou moins brutales. Il y a celle des squatteurs, c'est-à-dire qu'on envoie des squatteurs on pousse les squatteurs à s'installer dans l'immeuble. L'immeuble peu à peu se dégrade. Il y a un incendie, hélas, après il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de sécurité et l'immeuble est ainsi vidé. C'est ce qui se passe à Marseille actuellement.
Attends, monsieur Rivitis, quelque part là,
non. Ah oui. Il est au cinquième, hein.
Oui.
Voilà.
C'est bien que monsieur Rivitis soit là, parce que lui, c'est un cas de figure. Voilà. Donc ça, c'est encore le bruit, hein. C'est là qu'il doit avoir le feu, certainement. Il y a un sort de la chambre là-haut. Monsieur Rivitis ?
Oui.
C'est Vincent.
Ah, bonjour.
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 Je vous dérange ?
Non, non, vous ne me dérangez pas, bonjour.
Vous faites un tour dans les images ?
Oui. Le plafond, il risque de s'écrouler, là, donc, ici.
Et donc, vous avez mis des immenses planches, des tréteaux
étés,
en bois ?
Oui, des étés, pour pas que ça s'écroule.
En haut, il y a le plafond qui s'écroule, et en bas, il y a le sol qui s'affaisse.
Voilà, voilà, c'est ça. Donc, nous sommes en procédure judiciaire, voilà. Voilà le relogement de Marseille République.
Et tous ces encas, c'est vous qui les payez.
Évidemment, là, je dois débourser 1 500 euros. Oui, alors, comment je fais, moi, 1 500 euros, vous vous rendez compte encore? J'en ai eu encore avec l'ancien procès dont la décision n'est pas sortie pour les squatteurs. J'en ai eu pour, je ne sais pas, 2000 et quelques euros. Là, 1 500 euros, la porte de 1 500 euros. Non, mais il ne faut pas exagérer. Moi, je ne roule pas sur l'or. Hein. Je suis obligé de prendre des crédits chaque fois.
Pour payer les avocats?
Et pour payer les avocats, pour payer les portes, pour tout payer. Hein. Comment faire?
En tout cas, votre décoration est magnifique. Hein.
Ah oui, vous aimez, ouais. Vous aimez, ouais, ouais. Si vous pouvez voir, là, tous ces portraits, je les ai photographiés au Louvre. Il y a des icônes, comme vous pouvez le voir. Donc, alors voilà.
C'est-à-dire que vous habitiez dans un minimum normal avec des locataires?
Au début, c'était normal. Et puis après, au fur et à mesure que les locataires partaient, donc c'était plus reloué. Et ça a été pris par les squatteurs un beau jour. Et pendant 5 ans, ça a été la catastrophe. Quoi. Et puis après, j'étais obligé de partir. On m'a relogé ici.
Quand les squatteurs se sont installés, vous n'avez pas appelé la police pour...
Ben, ils n'ont rien fait. Hein. Je suis allé voir l'agence, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien fait. Bon, les squatteurs venaient s'installer. La police venait, ne faisait rien. Une fois, c'était si. Ils avaient des ordres de ne pas les toucher. Donc, c'était... Bon, je faisais le siège du commissariat de la rue nationale. Je me dis, un policier, un officier de police, il me dit, mais monsieur, vous savez, puis votre immeuble, il est connu en Algérie. C'est-à-dire d'Alger, ils étaient aiguillés sur le 14 Henri Fiocca chez moi pour venir avec des genres de trafic, d'argent, tout ça, il y avait toutes sortes de trafic, et la police fermait les yeux, c'était épouvantable, épouvantable cette histoire-là, épouvantable. Ça a duré 5 ans jusqu'à... Et quand je suis parti, moi, un mois après, comme par hasard, tous ont été expulsés.
Il y en avait un paquet, hein,
ben, il y en avait 130. 130. Bon, ils n'avaient pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'eau, ils ne payaient ni eau ni électricité, vous imaginez bien. L'eau coulait sans arrêt et tous les murs, tout a été inondé et ça s'écroulait. Vous savez, ces vieilles bâtisses, là, comme je vous ai montré, là, c'est des canisses. Et dès que l'eau rentre, bon, ça pète et ça s'écroule. Bon, et moi, j'ai eu ce problème. Et quand je suis revenu donc de congé, j'ai vu une des pans de murs écrouler, le vandalisme tout saccagé dans mon appartement.
Laisser s'installer les squatteurs, c'était une manière de...
Voilà, c'était une manière pour la société... pour le propriétaire de nous faire partir à nous, locataires légaux, parce qu'ils n'avaient pas d'autres mesures étant donné que nous étions de la loi de 48. Et dès que nous sommes partis, ils ont fait partir les squatteurs.
Parce que des incendies, il y en a eu deux.
Il y en a eu deux en face. Jours, hein. Voilà, vous voyez en face.
Attendez, on va regarder en face.
Regardez en face. Vous voyez le balcon, là. Vous voyez, je note. Voilà. Vous voyez en face, donc tout a été brûlé, toute la toiture a été brûlée. C'est pareil là-haut. Ça fait partir des gens et en face, il y avait des gens qui devaient être relogés. Comme par hasard, c'est bien tombé, ils ont été relogés.
Ah, ça va, c'est bien. Je vais
faire. Je cause de courant. Je
vais faire. Alors là, cette madame Garcia, elle lui a dit que vous allez être relogé rue de la République. Mais en vérité, c'est pas la rue de la République, c'est la rue Jeanne Trinquet. C'est une rue très sombre, puis c'est malheureux, mais dans le quartier, c'était la rue des pompes funèbres, ça. Même moi, quand j'étais petit, ma mère me disait, je veux bien que tu ailles au Vieux-Port, mais ne passe pas par la rue des morts. Et cette madame Garcia, elle a dit, je finis à la rue des morts. C'est... D'ailleurs, il est arrivé un accident à cette madame Garcia. Quand elle est venue ici, un soir, au début, qu'elle était complètement dépaysée, quoi. On a sonné chez elle, elle avait dû s'endormir sur la chaise, dans la peur, elle est tombée par terre. Et dans son imagination, elle repartait dans sa chambre, mais comme elle n'était pas dans le même appartement, elle s'est perdue. Elle est partie dans la cuisine, elle a dormi, elle est restée toute la nuit dans la cuisine. Le matin, les voisins sont arrivés, elle a appelé au secours, les pompiers sont venus la chercher. Elle a fait 2 jours d'hôpital. Donc elle était pleine de bleu, elle ne savait plus où elle habitait. Elle dit, je voyais des meubles accrochés au plafond. Enfin, une personne âgée qu'on a complètement déracinée, c'était un peu... C'est un peu des choses...
La lumière ne marche pas.
La lumière est en panne. Madame Garcia.
On voit rien du tout.
Si j'arrive. Où est le... Madame Garcia. J'ai tapé le coup une fois. Madame Garcia. Ah, excusez-moi, on est dans le noir, il n'y a plus de lumière. Bonsoir. On peut venir vous voir 5 minutes hein?
Allez. Rentrez.
Pardon. Voilà. Madame Garcia, vous avez quel âge?
Faut pas le dire. 4 fois 20 ans. Disons 20 ans, 4 fois, quoi.
Et vous vous souvenez du temps où vous aviez 20 ans?
Ah ben quand même, oui. C'était très chaleureux. Vous savez, il suffisait qu'on sache qu'un voisin était fatigué pour que tout le monde soit là, hein.
Ouais. Et puis cette rue de la République était magnifique, cette rue de la République avec de beaux magasins.
Et puis, ces grandeurs et décadences, quoi.
C'est ça.
Et vous, pourquoi vous êtes parti alors?
On m'a foutu dehors. On m'a dit, il faut que vous partiez. Assez brutalement, finalement, hein. Ça s'est passé d'une façon...
Inhumaine.
Pardon?
Oui. Inhumaine. C'est inhumain. D'avoir délogé des personnes comme ça, âgées, qui ont leurs habitudes. Vous êtes dans votre maison, dans votre cocon, là, on vient, on vous dit, pouf.
Oh, et puis c'était bien, là-bas. J'avais un bel appartement, un beau balcon. Vous vous rappelez comment c'était sûr. Bien? D'ailleurs, même maintenant, je ne suis pas chez moi, hein. Je ne me sens pas chez moi. Je me dis, qu'est-ce que je fais là?
Mais vous, on a fait pression sur vous pour vous faire partir?
Ah ben oui. Il fallait partir absolument, hein. Sans se mettre des gants, sans... Ensuite, il y a un juriste et il nous a dit, vous savez... D'autres personnes ont acheté vos logements. D'ailleurs, c'est tout l'immeuble. Ce sont des retraités américains qui ont acheté, qui ont investi, quoi. Ils veulent les logements, ils veulent les mettre à des prix exorbitants, hein.
Et donc, vous avez déménagé ici, alors?
Et voilà, depuis le 5 mai. Ça fait la deuxième fois, quoi, qu'on m'a fait évacuer. La première fois, ça a été sinistre, hein. C'est les vieux quartiers, vous savez. Là, il a fallu filer à toutes jambes.
Qu'est-ce qui s'était passé dans les vieux quartiers?
Ben, c'était pendant la guerre, hein. Un beau matin, la Gestapo est passée. Artoum, Artoum. Mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces gens-là, maintenant? Et il y avait un interprète. Alors, il a dit... Il faut partir, vous devez évacuer, vous devez évacuer. Et nous avons pris Noard, ce que nous avions. Et puis, ben, nous sommes partis.
Vous comparez l'arrivée de Lone Star à l'arrivée...
Ah, ben oui, je me dis qu'on m'a fait évacuer une deuxième fois.
Donc d'un côté, c'était les Allemands, maintenant, c'est les Américains.
Et ben voilà.
La France continue son martyre, la France brûle. Cette fois, c'est à Marseille. Les rues de la vieille cité phocéenne, où la vie semblait insouciante, Marseille, porte de l'Orient, connaît à son tour les entonnoirs des bombes, les maisons écroulées, les cris des blessés, les morts que l'on pleure. ...1250 morts, 21 000 sans-abri, tel est le bilan. Le vieux port. L'opéra municipal. La Canebière vers l'église des réformés.
1539, Marseille était mise sous tutelle, déchue de ses droits civiques, on nous envoyait un gouverneur colonial et tout. Là-dessus, en 42, les Allemands envahissent la zone sud, arrivent à Marseille. Ils arrivent à Marseille, ils débarquent et ils trouvent... Ils sont conditionnés à tout un discours dans les années 30 sur Marseille, Chicago, ville de voyous, ville d'immigrés, ville d'Italiens, ville étrangère. Faut voir que quand même, entre les deux guerres, tu as quand même un quart de la population marseillaise qui a la nationalité italienne et l'autre quart qui sont des descendants d'immigrés italiens.
Allez, c'est de l'Ombria.
Ça fait la moitié de la population, c'est énorme. Les Nord-Africains, en comparaison, ça doit faire 30% actuellement. Donc les Allemands, ils débarquent et il y a tout ce discours. Ils trouvent des projets tout prêts. Il y a le projet Grébert qui date de 31, le projet Castel de 34, le projet Baudouin dans le cadre du gouvernement de Vichy qui date de 42. Des projets de démolition et de reconstruction. Reconstruction avec une densité de population diminuée de 2/3 et un quartier résidentiel pour des classes moyennes aisées. Et janvier 43, les Allemands expulsent brutalement 25 000 personnes qui habitaient dans ce quartier, dans le Vieux-Port. Dont un millier vont d'ailleurs partir dans les camps de concentration parce qu'il fallait bien montrer que c'était un quartier de voyous, etc. Un millier de personnes, mais qui étaient des pauvres bougres, des dockers, des marins, des pêcheurs, des gens comme ça. Et pendant 20 jours, ils ont dynamité systématiquement maison après maison. Au bout de 20 jours, de ce qui était le berceau historique de Marseille, il ne restait plus qu'un champ de ruines. Les photos sont là qui attestent, hein, c'est saisissant. Hein. C'est la politique de la table rase, telle que Le Corbusier l'a formulée, sans oser espérer... qu'elle soit réalisée de façon aussi expéditive, parce qu'avec les Allemands, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de contestation. Hein. Et en plus, ils ont réalisé le boulot de démolition gratuitement.
Mais en fait, le projet, effectivement, a été écrit depuis longtemps. La municipalité y pensait depuis un certain nombre d'années.
Depuis l'Ampèbre. Personne ne sait quand c'est l'Ampèbre. C'est tellement loin qu'on ne sait plus. On a perdu la mémoire. Mais comme Bousquet, par exemple, le petit ami de Mitterrand, là. C'est lui qui a coordonné la destruction du Vieux-Port de Marseille avec le général Aubert, qui était le chef de la Gestapo en France. Ni Bousquet, ni Michel Sureau, le gouverneur colonial de l'époque, n'ont été inquiétés pour ces faits après-guerre. Ils n'ont pas été condamnés pour ça. Ils n'ont même pas été inquiétés pour ces faits-là.
À Marseille, les travaux de démolition du quartier du Vieux-Port sont activement poussés. Et déjà, de nombreux immeubles ont été jetés à bas. Cet îlot inextricable de ruelles, de cul-de-sac, de cours, repère de toute une pègre internationale, îlot insalubre aussi où la mortalité atteignait un chiffre effrayant, ne pourra plus à l'avenir servir de cadre qu'à l'imagination fertile des romanciers. Français, voici des nouvelles de nos travailleurs qui vivent aujourd'hui en Allemagne.
Ma grand-mère, elle me racontait qu'à la radio, à l'époque, elle entendait un speaker de la radio, connu, je ne me rappelle plus son nom, mais qui terminait chacun de ses discours par la phrase « Et Marseille, comme Carthage, sera détruite
oh, ».
C'était,
bon.
Ouais. C'était son leitmotiv.
D'ailleurs, il y a encore un truc qui est incroyable, c'est que Marseille, un peu comme Gênes et comme Naples, n'a pas attendu l'arrivée des forces alliées pour se révolter. En mai 1944, les FTP ont lancé un mot d'ordre de grève générale dans Marseille. Et deux jours avant, les Américains ont bombardé la ville. Et les bombardements, comme par exemple, ont touché systématiquement les quartiers ouvriers. Saint-Lazare, la Belle de Mai, en faisant la Capelette, tout ça. Les victimes, c'était que des
ouvriers.
J'ai lu récemment un truc sur le bombardement de Milan au même moment. Au moment où il y a eu une grève insurrectionnelle proclamée à Milan, et les Américains sont venus bombarder juste avant la grève insurrectionnelle. C'est assez amusant quand même la coïncidence. Les Américains, c'est quand même pas trop envie à la libération d'avoir des villes avec des ouvriers en armes, qui occupent les usines, qui ouvrent un peu trop leur gueule. Donc il y a eu un bombardement préventif. On a vraiment été punis de tous les côtés. Par les Allemands, par Vichy, par les Américains. On peut vraiment dire que on a pris la punition, quoi.
Marseille, où je vis le jour, Marseille, captivant ces jours, de par ta gaieté, ton ciel toujours bleu, chacun est heureux. Marseille, quand on t'a connu, Marseille, on te quitte plus, c'est bien la ville sans pareil, mon Marseille. Marseille, où je vis le jour, Marseille, captivant séjour de ta gaieté, ton ciel toujours bleu, chaque est heureux. Marseille, quand on t'a connu, Marseille, on te quitte plus, c'est bien la ville sans pareil, mon Marseille.
Là-bas, il y avait un petit hôtel aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure, l'hôtel Sainte-Claire. Alors là, les locataires sont partis parce qu'il y a eu des problèmes avec Marseille République qui voulait récupérer les locaux. Les gens payaient leur loyer depuis toujours, quoi. Alors ils ont essayé de les déloger, mais les locataires ont dit non, non, mais nous, on est à jour. Le propriétaire de l'hôtel donnait de l'argent de la main à la main aux locataires pour les faire partir. En fin de compte, sur 35 locataires, il n'y en a plus un.
Voilà, plus un. Le centre de Marseille se vide de son peuple, et c'est ce que nous raconte cet historien brillantissime, Alessi de l'Umbria, avec une grille d'analyse, disons, qui n'est pas si courante parmi les historiens. Et on voit s'accomplir là ce qu'on a vu s'accomplir dans d'autres villes de France, mais pas seulement de France, d'Europe. Pas mal d'endroits quand même dans le monde ont connu ces mutations d'aseptisation, hein, d'aseptisation des villes. Et le peuple, eh bien, a été chassé alors par tout un tas de procédés plus malhonnêtes les uns que les autres, de pressions, de divers et variés, de fausses promesses, de pièges et sans aucun respect. Alors quand même, il y a des associations qui ont essayé de se défendre. Il semblerait que finalement, sous la pression, l'indignation générale, la mobilisation, parce que ça se passe pas quand même comme ça, on peut pas dire que les Marseillais se sont laissés faire, les gens de ces quartiers-là se sont laissés faire. Il y aurait des promesses d'aménagement peut-être d'une des rues de ce quartier où on pourrait quand même envisager peut-être éventuellement de faire quelques logements sociaux, mais c'est pas sûr. En tout cas, Patrick est loin du cœur de sa ville.
Mon immeuble, il fait partie de la cité des Oliviers, c'est le bâtiment C. Moi, j'habite juste en face de Madame Chèvre, qui a hébergé sa mère, et moi, j'héberge deux anciens collègues de l'hôtel meublé Sainte-Claire. Ouais. Depuis février, ben, j'aurais proposé de venir chez moi parce que je trouve aberrant de laisser deux personnes avec leur chat sur un trottoir. C'est pas logique. Hein. Moi, je sais qu'on m'a toujours aidé, alors faut que je fasse pareil pour les autres. Quand je suis arrivé à l'hôtel meublé il y a à peu près 4 ans de ça, ben heureusement que je connaissais Madame Torel qui m'a dit ben, viens chez moi le temps qu'on te trouve une chambre meublée. Voilà. Et elle m'a gardé pendant 4 mois.
Vous avez habité dans sa chambre pendant 4 mois ?
Dans sa chambre avec elle pendant 4 mois. Que je ne pouvais pas aller ailleurs. Hein. Je loue une maison et je me retrouve à la rue. S'il n'y a pas les amis qui s'occupent de moi, maintenant c'est moi qui fais pareil pour mes amis. Je leur rends service comme on m'a rendu à moi. C'est une logique. Hein.
Donc vous habitez à 3 maintenant dans un petit appartement ?
On est à 3 dans un T2. Et normalement, on n'a pas le droit.
On va rendre visite à Madame Tourelle qui habitait auparavant dans le centre-ville de Marseille et qui a été envoyée chez sa fille sur les quartiers nord. Donc là, on rentre dans la cage d'escalier. Au 11e.
Voilà. Allez, chômeur.
Bonjour.
Bonjour. Et qui est chômeur ?
De l'autre côté, dans l'hôtel meublé, la vie, c'était pas très confortable quand même.
Si. Ah, mais non, non, non. On avait les cafards, on avait les rats qui promenaient.
Saleté. Puis crois mettre du papier toilette dans les toilettes qui étaient déjà sur le palier. Le ménage dans les water ou escaliers n'était jamais fait. La lumière dans les escaliers. Une douche pour 60 chambres. Alors, dans une chambre, des fois, il y avait une personne. Il y avait des grandes chambres, deux personnes. Des fois, il y avait des familles. Alors, une douche. Et avec les cafards, la saleté. Manque d'hygiène. Ici de secours, il n'y en avait pas. On était grillés. Hein.
C'est que dans les chambres, on n'avait pas d'eau chaude et pas d'eau chauffage. C'était à nous démerder. Hein.
Avec Jean-Marie, on s'était acheté un réchaud à pétrole.
C'était pas un 4 étoiles, votre hôtel.
Oh là là. Une cave, j'aurais été mieux. Hein. Franchement.
Mais il devait pas d'avoir du tout d'étoiles, celui-là.
Combien vous payez?
300
euros,
tu payais toi?
300 euros. Ce qu'il nous donne le Hermit, j'ai plus rien pour manger. Hein. C'est la diète. Hein.
Nous, quand à la fin du hôtel, on n'avait pas à manger, on se réunissait. Un pas de pâtes, lui amenait les pâtes, moi j'avais de la viande hachée. C'était la solidarité, je veux dire. Bon, j'ai pas de sous, c'est bon, je descends. Jean-Marie, je peux faire mes courses. Jean-Marie allait faire ses courses. Il allait à l'Idol pour faire ses courses pour elle. Sortir son petit chien, c'est Jean-Marie qui le sortait. Ils buvaient ensemble le café, ils passaient Noël ensemble, ils jouaient ensemble. Les anniversaires ensemble, tout fait ensemble, tout le temps.
Donc, c'est-à-dire que même si c'était des conditions insalubres...
Insalubres, pour eux, c'était familial. Donc, vous avez plus le cœur à vivre en famille et tout se battre qu'être seul de son côté, quoi.
Elle avait sa petite vie à elle, elle était bien. Voilà. Mais après, de partir d'un endroit où elle se sent bien, aller ailleurs, c'est un peu dur aussi.
La mère est arrivée chez moi, elle était en pleurs. Hein. Tu vois, tu te rends compte, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma chambre meublée, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu sa dignité, finalement, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus rien du tout, quoi. Ils sont carrément à la rue, quoi. À la rue. Moi, je n'aurais pas pris ma mère avec moi. Patrick n'aurait pas pris Jean-Marie Alain avec lui. Ils étaient tous dehors, quoi.
Et il nous a donné 2500 euros, et nous sommes partis. En disant que c'est Marseille République qu'ils avaient donné.
Tenez 2500 euros, on tient la carotte à un an il avance, hein, je suis désolée. Hein. Alors que vous croyez qu'il va se quoi, les gens? Ils ont vu cette somme-là, un as de billets, on dit c'est bon, c'est pour nous, on se casse. Mais ils n'ont pas vu non plus à la fin qu'ils n'allaient rien avoir, les pauvres. Voilà. Ils croyaient qu'avec ces sous-là, ils pourraient se reloger. Mais un relogement sur Marseille, 2500 euros, vous ne trouvez pas.
Ça nous a permis de nous refringuer, c'est déjà pas mal.
Donc, ils vous ont viré après 12 ans à l'intérieur et ils vous ont rien proposé à la place.
Rien. Là, pendant 12 ans, on s'est sorti un peu de la merde. Eh ben, le grand plongeon, là. Là, c'est les sables mouvants, là. Et là,
après, je vais mon frère au camping où il est, parce qu'ils n'ont pas voulu le reloger, il est dans un camping, il est invalide. Il a 350 euros de caravane, après il va se reste pour manger le pauvre. Déjà, je l'aide, moi aussi. Hein. Là, je dois lui amener un réchaud et tout pour... Voilà. Ça galère.
On m'a dit que l'hôtel Meublé voulait le réhabiliter.
Oui, mais pour
ils
veulent
le réhabiliter pour des étudiants qui ont des sous. Voilà, pour les étudiants qui ont des sous. Ils vont faire le centre européen de la culture, tout le quartier.
Ah, mais ça, c'est une bourgeoise.
Voilà. Et l'hôtel Meublé, tu sais ce qu'ils faisaient? Les gens comme nous, ben, on devait gâcher le paysage. Pour les gens qui vont venir, nous... On ne sert plus à rien, ils vont mettre les loyers à 2-3 fois le prix. Voilà, ils vont faire quelque chose de plus évolué. Que tous les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, tous les cas sociaux, c'est pas bon. Si pour un centre européen, il va venir des gens d'ailleurs, d'autres pays, ils veulent voir quoi? Un beau quartier et tout, puis il y a aussi le tramway qui va passer. Ils vont faire un quartier de luxe. D'un quartier où il y avait des pauvres, ils vont faire un quartier de luxe et des pauvres dedans, ils n'ont plus rien à voir. Voilà.
Ils vont les virer dans la ville, dégager, vous gâchez le, comme l'a dit Patrick, vous virez, on vous met derrière, quartier nord, quartier pourri. Voilà.
Voilà le blues de Marseille, la fin de l'anomalie marseillaise. Chose qu'on a connue, encore une fois, ailleurs, un peu partout en France, notamment à Paris, pour ceux qui se souviennent encore de ce qu'était cette ville il y a 30 ou 40 ans. Souvenez-vous ce que nous disait une jeune femme rencontrée à Aubervilliers dans un reportage il y a quelques jours de Dila et Moïse à Aubervilliers. Elle dit, mais pourquoi vous venez faire des reportages chez nous? Ici, il n'y a pas de problème, mais simplement, on manque de thunes et de mixité sociale. Il se pourrait que les riches de Marseille, dans 10 ou 20 ans, nous disent la même chose, sauf que c'est le contraire. On a trop de fric, mais il y a un problème de mixité sociale. Ce sera peut-être ce qui se dira alors.
Dans l'après-guerre, tous les quartiers qui ont été détruits, qu'est-ce qu'ils sont devenus alors?
Bah, ils ont fait un quartier résidentiel, quoi. C'est mort. Ça s'est poursuivi avec les projets de Defer. Là encore, il y a tout un morceau du Marseille populaire que nous, on a connu, hein, parce que quand on était gamin, ça existait encore. qui a disparu. Il y a la rue des Chapeliers. La rue des Chapeliers, c'était le lieu de l'immigration kabyle à Marseille. Et tout ça, ça a été complètement rasé vers 80-85.
Et pourtant, malgré toutes ces tentatives, le cœur de Marseille est resté très largement populaire.
Moi, je nuancerais. Je dirais qu'elle a un centre-ville sous-prolétaire. C'est-à-dire vraiment ceux qui sont restés dans le centre-ville, ceux qui n'avaient pas les moyens de fuir.
Tu veux dire que le centre de Marseille est passé de populaire à paupérisé ?
Ouais, beaucoup. On prend un quartier comme Noailles, moi je l'ai connu. J'étais minot le samedi après-midi avec ma mère, on allait faire les courses. À l'époque, tous les prolos marseillais venaient acheter la viande là. Il y avait Batigana, il y avait tout ça, tout ça. Il y avait la rue Longue des Capucins.
Le royaume de la Chantilly.
Le royaume de la Chantilly, c'est de folie. C'est vraiment un quartier marseillais, mais extraordinaire. Et là, après, dans les années 80, ils ont multiplié les hypermarchés en banlieue. Là, maintenant, Noailles, c'est un quartier qui est complètement à l'abandon. Que ce soit au niveau du bâti, au niveau des logements, qui se décrépissent. Les commerces, la plupart des commerces ont été abandonnés. C'est un quartier qui, petit à petit, est de plus en plus déserté par, on va dire, le Marseille populaire, qui est devenu un quartier sous-prolétaire, qu'on aime bien. Si tu veux, moi, j'y habite, on aime bien l'ambiance de ce quartier, il permet un certain nombre de liberté. Mais c'est vrai, on voit bien que c'est un quartier qui est en voie de disparition. Et on sait très bien que l'étape finale, ça va être comme la rue Tubano, quoi. Et à la place, ce qu'ils veulent faire, c'est le même truc. Soit des galeries d'art, soit des garages pour les voitures en rez-de-chaussée. En tout cas, ils neutralisent.
Pour toi, le projet Euroméditerranée, il s'inscrit dans cette histoire-là ?
Complètement. Euromed prend acte de l'impossibilité de constituer un centre-ville bourgeois dans Marseille. Et donc va constituer un néo-centre-ville affranchi des pesanteurs, on va dire, sociales du centre-ville où quand même les pauvres se cramponnent. Et moi, ce que je crains, c'est que à l'époque de la rue de la République, on avait quand même toute cette activité industrielle et maritime qui faisait qu'ils étaient bien obligés d'avoir les ouvriers sous la main, là, à proximité, et donc de les tolérer. Bon, maintenant que tout ça s'est quand même passablement désamorcé, merci. Et donc ce projet de Romède, là, il s'intègre à une stratégie d'emballage du vide, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, là, on est là, Marseille, c'est plus qu'une marque déposée, quoi, en fait. Ouais. Le tourisme, la culture et l'immobilier, voilà. Tu vois, c'est trois éléments qui marchent ensemble pour nous faire une ville complètement factice, une ville qui n'existe pas, en fait. Qui, en fait, au bout du compte, ça va avoir pour conclusion d'activer encore un peu l'expulsion des pauvres du centre-ville, en bourgeoisie, et puis de nous couler du béton, des façades vers acier, quoi. Bon, il y a quelques lobbies du BTP qui vont se gaver dans cette affaire. Non, si on pas Judas, on n'est pas aidé, quoi. Ah, c'est une pauvre ville. Non ? Moi, les projets pour Marseille, Déjà, on dynamite le TGV. Comme ça, terminé. Les Lyonnais, les Parisiens qui viennent là se dorer au soleil de Marseille. Fini, terminé. Déjà, on commence par ça. Non ? Tu es d'accord ?
Qui viennent à Dodane.
À Dodane, d'accord. Vous venez à Dodane, vous êtes les bienvenus. Hein ? Mais en TGV, non. Non, première chose. Deuxième chose, on ferme le commissariat de Noailles.
Ouais, ça, il faudra le faire.
Ouais. Ça, il faut le faire. Tu sais pas, on pourrait faire un hammam, par exemple, un gigantesque hammam à la place du commissariat, non ? Regarde à Paris, putain, franchement, il y a moins d'Arabes qu'ici. Ils ont pété le hammam de la mosquée, et nous, on n'est même pas foutu d'avoir un truc comme ça à Marseille. Voilà ce qu'on devrait faire à la place de ce putain de commissariat. Non ?
Ouais, pourquoi pas. Mais qu'un plein projet, ça finit de façon positive. Ce reportage de François Ruffin, merci à Alessi Delombria. Je rappelle le titre de son bouquin « Histoire universelle de Marseille, de l'an 1000 à l'an 2000 », c'est aux éditions Agone. Merci à Bruno Le Dantec qui l'accompagnait. Merci à Vincent Abatte, Madame Sorel, Patrick, Alain, Monsieur Révitis, Madame Garcia. Et bonus sur le site labba.org, la-bas.org, Salvatore Condro qui résumera le reportage d'aujourd'hui pour ceux qui sont arrivés en retard et se délecteront de l'écoute de cette émission sur le site labba.org ou bien aussi sur franceinter.com. L'émission est réécoutable pendant 24 heures. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission, là-bas, j'y suis technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Michel Toutain. C'est Yann Chouquet et Coy Nguyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert au répondeur, dont le numéro est le 0156 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.